C'est l'émission Les Voix de service extra du 9 août 2017 et c'est Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue. Au menu culturel, notamment Charlotte Cardin dans la cour des grands, retour sur le spectacle de Coldplay qui était au Centre Bell hier soir. Le nouveau film de Luc Picard va ouvrir le Festival de cinéma de la ville de Québec et aussi David Letterman de retour à l'écran de Netflix. Le Festival de cinéma de la ville de Québec a choisi le 4e long-métrage de Luc Picard, qui a réalisé déjà l'audition Babine et Isé-Mézac, pour lancer sa 7e édition. Adaptation du roman de Nicole Bélanger, Les Rois mongols, met en scène une fille de 12 ans, Milia Corbeil-Covreau, qui va incarner la fille de 12 ans, qui kidnappe une vieille dame, Claire Coulter, à l'aide de ses cousins, Henri Richer Picard et Alexis Gay, afin d'empêcher les services sociaux de les placer, elle et son petit frère, Anthony Bouchard, dans une famille d'accueil. L'action se déroule durant les événements d'octobre 1970. Le film d'ouverture est l'œuvre qui donne le ton, la couleur au festival. Les Rois mongols est un parfait exemple de la convivialité rigoureuse mue par une passion qui anime ses artisans à l'image du Festival du cinéma de la ville de Québec 2017, a déclaré Olivier Bilodeau, directeur de la programmation du festival. Le 7e festival se tiendra du 13 au 23 septembre. Les Rois mongols prendra l'affiche le 22 septembre. Coldplay au Centre Bell, Stéphanie Vallet donne ses impressions. Coldplay avait mis la barre très haut lors de son passage précédent en ville en 2012, offrant un vibrant concert à la scénographie des plus impressionnantes. Le groupe britannique était ainsi chaleureusement attendu par un Centre Bell bondé du parterre au plafond hier soir. Toujours aussi vivant sur scène, Chris Martin et ses trois complices ont donné tout un spectacle, bien que très similaire et un peu moins épatant visuellement que le précédent. Bracelets lumineux offerts aux spectateurs, confettis colorés et faisceaux lumineux étaient une fois de plus au rendez-vous. Mais reste que Coldplay nous en a mis plein les yeux et les oreilles non seulement en interprétant ses plus grands succès, mais en offrant aussi des moments plus intimes sur deux plus petites scènes implantées au sein du public. Que l'on soit fan ou pas, le groupe vaut vraiment le détour en salle. Certains ont d'ailleurs demandé jusqu'à 1 000 $ le billet sur les sites de revente pour assister au spectacle qui s'inscrit dans le cadre de la tournée « A Head Full of Dreams » du nom de leur album sorti en 2015. À notre plus grande et agréable surprise, Coldplay a choisi de jouer un seul titre de son EP « Kaléidoscope » paru à la mi-juillet et qui nous avait laissé mi-figue, mi-raisin. C'est dans une configuration très classique que Chris Martin, toujours aussi en voix et soutien, a entonné A Head Full of Dreams pour lancer les festivités. Merci de nous avoir attendus aussi longtemps. C'est notre 94e spectacle, soit autant de répétitions avant de jouer à Montréal. Pluie de confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel en prime. La mayonnaise prend toujours aussi vite avec Yellow, à la fois magnifique et émouvante, ou encore The Scientist. Mais ce sont sans aucun doute les petits détours vers les premiers albums du groupe qui sont les plus réussis, avec notamment l'excellente Good Put a Smile Upon Your Face, extraite de l'album A Rush of Blood to the Head.
Bye. when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
David Letterman de retour à l'écran de Netflix. C'est Philippe Papineau qui en parle dans le Devoir d'aujourd'hui. Un peu plus de 2 ans après son départ du Late Show de CBS, le vétéran du petit écran David Letterman a annoncé son retour au boulot. Mais signe des temps, c'est cette fois sur la plateforme de Netflix que l'animateur reprendra du service. L'entreprise de diffusion en ligne a annoncé mardi que Letterman, âgé de 70 ans, sera à la barre d'un talk show en 6 épisodes qui dureront 1 heure chacun. Chaque émission se fera avec un seul invité et permettra des conversations en profondeur avec des personnes extraordinaires et des segments sur le terrain qui permettront à Letterman d'exprimer sa curiosité et son humour. Le désormais barbu animateur sera au poste au cours de l'année 2018. L'émission ne porte pas encore de nom. Letterman, qui a passé 33 ans à animer des émissions de fin de soirée, s'est dit excité et s'estime chanceux de pouvoir mener ce projet avec Netflix. À propos de sa retraite, l'animateur a déclaré par voie de communiqué, et je le cite, « Voici ce que j'ai appris. Si tu prends ta retraite pour passer plus de temps avec ta famille, vérifie d'abord avec elle. Merci de regarder. Conduisez prudemment. » Des pirates informatiques réclament plusieurs millions de dollars de rançon à la chaîne câblée HBO, menaçant de dévoiler des données et des documents confidentiels dérobés à la chaîne américaine. Dans un message vidéo posté sur l'Internet et adressé au patron de HBO, le groupe de pirates affirme avoir obtenu des informations précieuses lors d'une attaque informatique qui lui aurait permis de mettre la main sur quelque 1,5 téraoctets de données. Une dizaine de documents ont été rendus publics lundi, selon le site databreaches.net, y compris ce qui pourrait être le scénario d'un épisode inédit de la série Game of Thrones. Ce message est publié une semaine après la fuite du scénario d'un autre épisode de la série à succès produite par HBO. La chaîne a indiqué dans un communiqué s'attendre à de nouvelles fuites issues de ce piratage informatique sur lequel une enquête est en cours. La voix reconnaissable de Charlotte Cardin, il en est question dans les journaux aujourd'hui, dans la cour des grands. Un article de Véronique Lauzon dans la presse, la chanteuse a signé avec Atlantic Records aux États-Unis et Parlophone en France. Après avoir été courtisée par les labels internationaux pendant des mois, la Montréalaise Charlotte Cardin a jeté son dévolu sur Atlantic Records, le label d'Ed Sheeran et des Rolling Stones. Puisque j'étais déjà signée par Cult Nation à Montréal, ça reste mon label pour le Canada. Mais mon label international est Atlantic, qui est une filiale de Warner Music. Et pour la France, c'est Parlophone, une autre filiale de Warner, a expliqué Charlotte Cardin, jointe au téléphone à New York, où elle entame une semaine de promotion. L'auteur-compositrice-interprète de 22 ans admire de nombreux artistes et groupes qui sont sous contrat avec Atlantic, dont Wiz Khalifa, Ed Sheeran, Bruno Mars et les Rolling Stones. Mais c'est surtout pour la qualité de l'équipe qu'elle a choisi ce label plutôt qu'un autre. Depuis le début de ma carrière, j'ai décidé de travailler avec, bien entendu, des gens compétents, mais aussi avec des gens qui ont de belles valeurs. Pour moi, c'était surtout ça qui était important. C'est pour ça que j'ai signé avec Cult Nation au début, même si tout le monde me disait que ce label n'avait pas encore fait ses preuves. Moi, je leur faisais confiance. C'est la même chose avec Atlantic. J'ai rencontré plein d'équipes et c'est celle qui m'a le plus touchée, le plus marquée, a dit la finaliste de La Voix en 2013. Charlotte Cardin ajoute qu'elle n'a pas pris le choix de l'étiquette internationale à la légère. Ça a été un long processus parce que c'était important pour moi d'apprendre à connaître l'équipe et de voir si c'était un bon fit. Ça a pris plusieurs mois et nous les avons rencontrés plusieurs fois. Je suis finalement très contente de ma décision, a affirmé l'interprète de Big Boy. Charlotte Cardin affirme qu'il est trop tôt pour divulguer la date de sortie de son prochain album. Elle nous promet cependant que de nouvelles chansons seront lancées dans un avenir rapproché. Les spectateurs qui ont assisté à ses récents spectacles au Québec, dont trois concerts au Métropolis dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal, ont entendu quelques-uns de ses nouveaux titres. Il y en a que nous gardons pour l'album, mais il y en a ainsi aussi que nous allons sortir en single. Je suis ouverte aux collaborations, mais je me suis bien débrouillée seule pour l'instant. Je reste quand même super ouverte à en faire éventuellement. Elle parle ici de chansons, évidemment, Charlotte Cardin. Si vous étiez à l'écoute de l'émission Les Voix de service magazine un peu plus tôt, il y a Daniel Lachance qui en a parlé, Glenn Campbell qui s'éteint à 81 ans. Il s'est éteint. Donc, la légende de la musique country Glenn Campbell, interprète notamment de Rhinestone Cowboy et qui a vendu des millions d'albums au cours de sa longue carrière, est mort à 81 ans, a annoncé sa famille hier. C'est avec le cœur très lourd que nous annonçons le décès de notre cher mari, père, grand-père et légendaire chanteur et guitariste, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Campbell souffrait de la maladie d'Alzheimer. Ce chanteur habitué à figurer dans les classements des meilleures ventes aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les années 1960 avait publié en juin son dernier album intitulé « Adios ». À ses débuts, Glenn Campbell avait joué pour les stars Elvis Presley et Frank Sinatra et avait accompagné en tournée les Beach Boys lorsque le chanteur Brian Wilson avait pris ses distances avec le groupe pour quelque temps. Coming over the phone. Glen Campbell et son immense succès. Parcours KM Cube, au Cube, un parcours d'art public au quartier des spectacles. Le quartier des spectacles se transformera du 30 août au 15 octobre en véritable parcours d'art public afin de célébrer le 375e anniversaire de Montréal. Et il sera possible de le découvrir à pied ou à vélo en compagnie d'un guide ou au détour d'une rue. Baptisé KM ou Kilomètre au Cube, ce parcours a été conçu spécialement pour Montréal. Les deux commissaires, Melissa Mongiat et Mouna Andraos de Delhi, tous les jours, nous parlent de 9 des 22 pièces créées sur le thème du voisinage. Ce duo, autrefois connu sous le nom de Série Pop, nous offre une installation picturale sur le mur du TNM du côté Saint-Urbain. Le théâtre sort du théâtre et Lacoon rend hommage aux lanceurs d'alerte de tradition grecque en référence à l'œuvre classique L'Énéide de Virgile. Alors, on parle ici du duo Chloé Loum et Yannick Deranlot. Et la pièce s'intitule Lacoon, qu'on peut voir donc sur un des murs du TNM. Il y a également Patrick Bérubé, notre ADN promenade des artistes. Bérubé reprend un des symboles de Montréal qui fait un peu partie de notre ADN, l'escalier en colimaçon extérieur. Il l'a suspendu à une méga structure avec plein de petits détails pour les passants, un peu curieux. Team Games et Le Bleu de Nastas Design Studio, avançons ensemble escalier de la Place des Arts et Place des Festivals, duo français qui va reprendre d'assaut ces deux escaliers qui disparaîtront bientôt de la place publique. On leur rend un dernier hommage avec une intervention graphique sur les contre-marches qui vont inviter à un jeu collaboratif. On essaie d'aller trouver une nouvelle interaction entre les gens qui vont occuper les lieux grâce à deux jeux graphiques qui vont se répondre d'un escalier à l'autre. Alors, d'autres œuvres, celle de Raphaël Lozano MR, Assemblée redondante au pavillon Sainte-Catherine de l'UQAM. Ying Gao, Still Life, une certaine nature, sur la façade du pavillon de design de l'UQAM, Michel de Bruin, Seuil, au pavillon J.A. de Sèvres de l'UQAM, Alexandre Castonguay, Roue de vélo, à la grande bibliothèque, c'est à l'extérieur, c'est vraiment impressionnant. Castonguay travaille avec un dispositif électronique qui s'appelle l'AGI-POV en majuscule, POV, qui se base sur la persistance de la vision pour créer des messages sur des roues de vélo. Il transforme le vélo en espace de communication, d'expression politique ou autre. Son installation va prendre différents visages, dont une structure interactive et une performance. Human Playground, Milan Gervais et Hubert Lafort. Luby pour les gens à pied, c'est sur la rue Sainte-Catherine. Et finalement, Marshmallow Laser Feast, ou Feist, plutôt Feast, Londres, Royaume-Uni. C'est une expérience de réalité virtuelle qui est habituellement isolante et individuelle. Elle est utilisée ici comme une expérience collective et même les personnes qui ne portent pas de casque y participent. On pourra encore pousser plus loin l'expérience en unissant les utilisateurs du parterre du quartier des spectacles et ceux qui se trouvent au centre-phi au même moment. Alors, parcours kilomètres au cube, ça prend son envol le 30 août. Coupe Rogers, chapeau Valoff de sang-froid. Guillaume Lefrançois, donc qui signe cet article à propos du joueur de tennis, il a 18 ans. Il jouait sur le court central au stade Uniprix dans un tournoi de catégorie 1000 devant des milliers de spectateurs. La veille, ils étaient des centaines à le regarder s'entraîner parce que Wayne Gretzky était à ses côtés. Hier, Gretzky était encore dans son entourage pendant le match. Évidemment, pendant le match, je ne me concentrais pas sur Wayne. Si je l'avais fait, je n'aurais probablement pas eu un bon résultat. Denis Chapovalov a bien fait rire les journalistes hier lors de la conférence de presse qui a suivi son éclatante victoire de 4-6, 7-6 et 6-4 contre le Brésilien Rogério Dutra Silva à la Coupe Rogers. Le Canadien, qui a le droit d'acheter des billets de loterie depuis seulement 4 mois, aurait pu être dépassé par les événements, par l'ampleur du moment, mais ce fut tout le contraire. En deuxième manche, il a offert non pas une, mais quatre balles de match à son rival pendant le jeu décisif. Il les a repoussées les quatre, dont une avec un amorti qui nécessitait une bonne dose de courage. Dans cette même deuxième manche, le jeune homme s'est emporté envers l'arbitre quand un de ses services en jeu a été déclaré à l'extérieur. Sa demande de révision lui a donné raison. Qu'a-t-il fait sur la séquence suivante? Un as. En troisième manche, il a obtenu deux occasions de briser le service de Dutra Silva. Il a arrêté la première, a montré des signes de colère après l'échange. Mais il a retrouvé son calme et a gagné le point suivant pour prendre l'avance 4-3 et ne plus jamais la perdre. Des démonstrations de sang-froid, Shapovalov en a fait une puis une autre. Mentalement, c'est une très bonne victoire à juger le 143e joueur mondial. J'ai connu quelques difficultés dans les deux premières manches, surtout avec mon service, mais je suis resté fort mentalement. À 5-5 en deuxième manche, je perdais 0-40. J'ai simplement bûché pour chaque point. Je vis et je joue pour des matchs comme ça. Ce match va me donner beaucoup d'expérience d'être dans cette position de devoir affronter des balles de match, de comprendre le jeu de l'adversaire, de corriger mon service en cours de match. C'est une grosse étape. Chez les filles, Coupe Rogers à Toronto, c'est devenu une habitude. Eugénie Bouchard a encore offert une performance décevante à la Coupe Rogers. C'est Michel Marois qui l'écrit, s'inclinant hier au premier tour du tournoi 3-6 et 4-6 contre la Croate Donna Vekić. La Roche, le grand maître des mardis cyclistes de la Chine, le coureur de 37 ans, est assuré de remporter un 7e titre record. Jean-François La Roche n'a pas attendu la 10e et la dernière étape de la 40e saison des mardis cyclistes de l'histoire pour entrer dans l'histoire du populaire Critérium. La Roche s'est assuré d'un 7e championnat dès le 16e des 31 tours, éclipsant ainsi la marque de 6 qu'il partageait avec Yannick Cogent depuis l'année dernière. Au passage suivant, le sympathique athlète a salué les spectateurs quand on a annoncé qu'il venait de réécrire l'histoire dès mardi. Le cycliste de Cycle Régis n'était pas rassasié. Il ne voulait pas que la victoire d'étape lui glisse entre les mains et que sa soirée soit ainsi gâchée. Il lui restait assez d'énergie pour remporter le sprint final le plus chaudement disputé de la saison. Après la course, La Roche, qui dans la vie de tous les jours est avocat pour une grande compagnie, a été accueilli en héros par sa famille et ses amis. Lawrence Stroll songerait à acheter l'équipe Force India. L'objectif du milliardaire canadien serait d'y faire courir son fils Lance. Mécontent des récents résultats de l'écurie Williams, Lawrence Stroll envisagerait le rachat de l'équipe Force India, donc dans le but d'y faire courir son fils. C'est du moins la rumeur lancée hier matin par le site spécialisé Italia Racing qui avance que le milliardaire canadien est en sérieuse discussion avec cette grande organisation considérée comme la grande rivale de l'écurie britannique en F1. Les deux formations sont associées au motoriste Mercedes. La vente probable de Force India alimente les conversations dans les paddocks de F1 depuis plusieurs mois déjà. La soirée Donaldson, le troisième but des Jays, produit 4 points aux dépens de New York. Josh Donaldson a sans contredit été le meneur des Blue Jays dans un gain de 4-2 face aux Yankees de New York hier soir à Toronto, alors qu'il a cogné deux longues balles pour produire tous les points des favoris locaux. Le joueur de troisième but a entamé sa journée de travail de belle façon, alors qu'il a expédié le troisième tir de Cici Sabathia dans les gradins dès sa première présence au bâton en première manche. Donaldson a alors été devancé par José Bautista au marbre. Ce dernier a enregistré son 19e double de la saison, quelques instants auparavant. L'Américain a ensuite frappé un deuxième circuit aux dépens de Sabathia lors du troisième tour au bâton. Alors qu'il profitait d'un compte de 3 balles et aucune prise, il compte 15 longues balles cette saison. Le premier tournoi de la Coupe Laver, ça s'écrit L-A-V-E-R, sera présenté en exclusivité sur les ondes de la chaîne TVA Sport du 22 au 24 septembre en direct de Prague en République tchèque. Cette compétition internationale qui opposera l'Europe au reste du monde mettra notamment en vedette Roger Federer, Rafael Nadal et Dominic Thiem pour le vieux continent, ainsi que le Canadien Miloš Raonic, John Isner et Jack Sock dans le camp adverse. Les trois autres joueurs de chaque formation seront dévoilés après la conclusion des internationaux des États-Unis. L'événement a été nommé ainsi en l'honneur de Rod Laver, ou Laver, l'un des plus grands joueurs de tennis du 20e siècle. Le capitaine de l'Europe sera Björn Borg, alors que celui de l'équipe rivale sera l'un de ses plus grands rivaux de l'époque, John McEnroe. Et on termine avec une nouvelle de hockey, même si la LNH reste campée sur ses positions quant à sa non-participation aux Jeux olympiques d'hiver de 2018, Alex Ovechkin des Capitals de Washington garde espoir de représenter la Russie à Pyeongchang en Corée du Sud. « Nous espérons que je serai autorisé à y participer », a-t-il déclaré en russe à Sport Express, propos repris par le Washington Post. « Il y a toujours une possibilité ». Ovechkin a été le capitaine de l'équipe russe à la dernière Coupe du monde et le propriétaire des Capitals. Ted Leonsis a précédemment dit qu'il appuierait le désir de son joueur de représenter son pays. Merci Jean-Sébastien Laliberté, je veux aller trop vite. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. À demain!